Alors, quand tu m'avais proposé, Jean-Marie, l'année dernière, à la même époque, mettre comme sujet l'espoir, je t'ai dit, ah, j'ai quelque chose de tout près, si ça t'intéresse. Alors, je m'excuse, ce n'est pas un travail très original, je veux dire, ce n'est pas très original pour moi. C'était, je crois, relativement nouveau en 1985, parce qu'en 1985, il y a eu un colloque international à l'UNESCO sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme dans le bassin méditerranéen et dans l'Afrique. Et bon, on me disait, on vous paye le voyage pour venir à Dakar, venez nous parler de ça. J'ai dit, mais je n'ai rien à dire. Et puis tout d'un coup, après, en réfléchissant, je me suis dit, mais si. L'expression droit de l'homme, elle est du XVIIIe siècle, comme vous savez, fin XVIIe, début XVIIIe. Mais les réalités viennent quelquefois avant l'appellation classique. Et donc, je me suis plongé dans beaucoup, beaucoup de textes parce que je savais que dans l'ancien stoïcisme, il y avait des choses à chercher, à approfondir. Et donc, pendant de très longs mois, j'ai essayé de mettre au point un petit dossier que j'ai un tout petit peu retouché, mais pas beaucoup. Et donc, je voudrais vous parler rapidement un peu aujourd'hui de ce que j'appelais donc la cité idéale dans le stoïcisme ancien, entre mythe et histoire. Et donc je précise bien le stoïcisme ancien parce que, vous savez, nous avons tous une idée du stoïcisme, nous savons tous ce que c'est, et quelquefois nous avons l'image d'une morale un peu raide, un peu étroite. D'ailleurs, stoïque et stoïcien au départ, ça vient un peu de la même image. Alors qu'en fait, là, nous sommes à une période ancienne. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin du IVe siècle avant notre ère. Dans la première génération. Donc, vous faites un tableau ici. Alors, présenter un thème aussi fondamental et complexe que celui de la cité idéale dans l'ancien stoïcisme, c'est très compliqué parce que, comme vous savez, il ne nous reste que des fragments. Quelques 8 ou 10 000 fragments, très peu de fragments originaux, beaucoup de fragments, surtout transmis par des successeurs et des commentateurs, les uns relativement fidèles, les autres malveillants. Et donc, il faut essayer de faire la part des choses. C'est donc très, très, très difficile. Bon, toujours est-il que nous n'avons pas d'autres moyens. Par conséquent, il faut essayer de se résoudre à travailler avec les moyens du bord. Ce qui est sûr, c'est que cette pensée politique a énormément marqué l'histoire des idées politiques. Mais aussi, comme vous le savez peut-être, sinon nous le découvrirons ensemble, ça a marqué l'histoire, tout simplement. Je vais partir de deux constatations parallèles. Première constatation, les stoïciens se sont beaucoup intéressés à la théorie du pouvoir politique et du droit. Ayant, je cite, beaucoup écrit sur le gouvernement, aussi bien, donc j'écris tous les noms au tableau pour que nous ne soyons pas déroutés, que nous les situions bien à leur époque. Zénon, Cléante, Chrysippe, Sphairos et Persée. Alors, Zénon, c'est 335-264. Cléante, c'est 331-232. Chrysippe, c'est 281-205. Alors, on dit toujours, ce sont les trois mousquetaires de l'ancien stoïcien. Il y a Zénon, le fondateur, et les deux disciples, Cléante et Chrysippe. Il y a un quatrième mousquetaire, dont peut-être vous découvrez le nom aujourd'hui, c'est Sphairos. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà connu, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est un monsieur qui a été très très contestataire, très contestataire, et qui a été à la source d'un certain nombre de révolutions. Or, il fut un temps, heureusement c'est en train de passer, il fut un temps où faire du latin et du grec, c'était apprendre la bonne morale des choses. À l'école de Cicéron, pas à l'école de Démosthène. Et donc, un Sphairos,
était passé à la trappe.
Or, nous avons beaucoup de textes de Sphaïros, comme je vous l'ai dit. Donc, les stoïciens ont beaucoup écrit. J'ai la liste de toutes les œuvres, dont nous avons au moins les titres et quelques fragments. Je ne vous lis pas parce que ce serait trop long, puis nous n'aurions pas le temps. La deuxième chose, c'est qu'à la différence de Platon, ils se sont trouvés, parce que Platon aussi a écrit le Gorgias sur la force. Il a écrit la République, bien entendu, que tout le monde connaît. Mais il ne s'est pas mêlé à la vie politique. Vous savez, il a fait un petit essai avec Denis, puis ça n'a pas marché. Tandis que les stoïciens se sont trouvés mêlés plus d'une fois à la vie politique de leur temps. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des stoïciens, ce ne sont pas seulement des théoriciens, ce sont les mêmes qui ont à la fois écrit et se sont trouvés mêlés à l'histoire. Zénon, le fondateur, avait un admirateur dans la personne d'Antigone Gonatas, un roi de Macédoine, descendant d'un successeur d'Alexandre le Grand. Il n'a pas accepté cette offre, mais il a envoyé à sa place un autre de ses disciples. Cléante, le deuxième, avait été invité à Alexandrie par Ptolémée. Et il envoie à sa place Sphaïros, le fameux Sphaïros dont j'ai écrit le nom tout à l'heure. Ce Sphaïros aura un rôle très important à Sparte, nous en reparlerons tout à l'heure. Un peu plus tard, nous allons trouver Panétius ici, moyen stoïcien. Nous allons trouver Panétius dans les cercles de Scipion Émilien. Nous allons trouver Diogène de Babylone. Diogène de Babylone est ici. Hein. Nous allons trouver Diogène de Babylone dans une ambassade à Rome, la fameuse ambassade de 156. Nous allons voir Athénador de Tarse. Ah ben non, je ne vous ai pas écrit tous les noms. Nous allons trouver Athénador de Tarse. Qui était-il? Il était le précepteur d'Octavien, le futur Auguste. C'est-à-dire que, et puis bien entendu, vous savez très bien, nous allons trouver Sénèque, précepteur de Néron, bien entendu. C'est-à-dire que nous voyons qu'ils sont à la fois théoriciens, ils ne sont pas des hommes de cabinet, ils sont à la fois théoriciens et hommes d'action. Alors, toutes ces remarques nous m'ont paru tout de suite, c'est très subjectif et partiel forcément, parce que bon, quand on a 7000 documents, il faut bien faire un tri. Et donc, ces remarques me paraissent illustrer cette phrase de Stobé. Alors, Stobé, c'est la garde des Michards de la philosophie antique. Bon, morceau choisi. Donc. Et donc, Stobé a écrit ceci, cette phrase qui m'a paru essentielle, qu'elle écrit en grec. Les stoïciens disent que le juste est juste par nature et non par convention. C'est une phrase centrale. Hein. Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que la justice? Il va directement au cœur du problème. Les stoïciens disent que le juste est juste par nature et non par convention. Par suite, c'est la suite de la citation. Par suite, le sage peut participer activement au service de l'État, et principalement quand il s'agit d'États dans lesquels on peut observer un progrès vers l'État idéal. Je répète la phrase. Par suite, le sage peut participer activement au service de l'État, et principalement quand il s'agit d'États dans lesquels on peut observer un progrès vers l'État idéal. Les hellénistes reconnaîtront l'expression tas teleias, politeias. Donc, pas seulement théoricien, mais engagé dans la direction d'un État, particulièrement lorsque cet État montre un certain progrès vers l'État idéal, c'est-à-dire permet un certain espoir. Nous sommes bien dans notre sujet. Être en effet à la fois théoricien et praticien de la vie politique. Je dis bien être à la fois théoricien et praticien. Le théoricien peut s'enfermer dans un cabinet et puis faire quelque chose en marge. Bon. Mais pour être, si l'on est à la fois théoricien et praticien, implique, me semble-t-il, que l'action doive, en principe du moins, être menée en fonction d'une visée plus ou moins lointaine. N'est-ce pas? C'est cette visée plus ou moins lointaine que je me permettrai d'appeler le mirage stoïcien. Le mirage stoïcien, je voudrais ôter à ce mot tout caractère péjoratif, pour lui donner sa valeur dynamique plénière. Nous sommes au cœur de la problématique de l'espoir. Hein. Ce que j'appelle mirage, ce n'est pas le fruit d'une illusion ici, mais c'est ce qui fait que l'on continue à avancer dans le désert parce que l'on a soif. Les stoïciens ont été fascinés par deux mirages. Les mirages de la nature, dont parle Stobé. Le juste est juste par nature. Un mirage philosophique. Mais ils ont eu également un mirage de l'histoire. C'est le mirage spartiate. Et donc, comme le mirage de l'histoire a précédé le mirage de la raison, c'est par celui-là que je commencerai. Je serai très rapide parce que vous connaissez les références, sinon nous allons les voir rapidement ensemble. Il y a des choses tout à fait intéressantes à dire. Alors, dans notre premier point, ce serait le mirage de l'histoire, la Sparte de Lycurgue. Bon, peut-être pas utile que j'écrive Lycurgue. Si je me suis hasardé à dire que le mirage de l'histoire avait précédé le mirage de la raison, c'est parce que les philosophes stoïciens ont réfléchi à la vie politique à partir de la constitution de Sparte. À partir de la constitution de Sparte, comme en témoigne la liste de leurs œuvres, et dont j'ai la liste ici, beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres de réflexion politique des stoïciens, c'est une réflexion sur Sparte. Encore une autre raison pour laquelle on ne l'étudie pas beaucoup cela, ni au lycée, ni à l'université. On parle beaucoup d'Athènes, on ne parle pas de Sparte. C'est facile à comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs. Alors donc, en l'absence de tout document contemporain de ce législateur légendaire, nous allons nous contenter du témoignage bien tardif de Plutarque. Plutarque, c'est la fin du premier siècle de notre ère. Il a écrit une vie de Lycurgue. Une vie de Lycurgue, qui est facile à lire dans la bibliothèque ou dans la traduction de Plutarque par Abio. Donc c'est facile à lire et c'est extrêmement intéressant. Alors qui est Lycurgue? Lycurgue, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est parce que c'est la figure du législateur. Mais il y a trois législateurs fondateurs de notre civilisation occidentale. C'est Lycurgue à Sparte, c'est Numa à Rome, et c'est Moïse dans la tradition biblique. Et les anciens ont toujours fait les allées-venues entre Plutarque, Moïse et Numa. Alors, est-ce que c'est le 8e, le 9e, 10e, ou le... Bon, personne ne sait très bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est une figure emblématique. C'est une figure emblématique sur laquelle on a dit beaucoup de choses. Et c'est parce qu'on a dit beaucoup de choses sur cette figure emblématique qu'il est important pour nous. Je cite. Alors, tout ce que je vais vous citer, c'est Plutarque, hein, Plutarque, vie de Lycurgue. Persuadé que, comme dans la vie d'un individu, dans une cité tout entière, le bonheur naît de la vertu et de l'harmonie intérieure, le mot c'est homonoias. Homonoias, c'est ce qui est traduit par concorde. À Athènes, la place de la concorde s'appelle homonoia. Persuadé que le bonheur naît de la vertu et de l'harmonie intérieure, Lycurgue la régla et la disposa de telle manière que les citoyens, toujours libres et se contentant de ce qu'ils possédaient, se maintinssent le plus longtemps possible dans la pratique de la sagesse. Fin de citation. Alors, comment a-t-il procédé? Je vous disais tout à l'heure, les stoïciens disent « le juste est juste par nature ». C'est une banalité de dire que, vous savez, on observe tout le temps, vous mettez 5 ou 6 enfants ensemble avec un jouet, ils vont se battre, Et donc, si on veut rétablir la notion de justice, ça suppose qu'on donne une certaine définition du mot nature. Parce que quand on dit ça c'est naturel, ça c'est la nature, on n'a rien dit. Par conséquent, il faut redéfinir la notion de nature, c'est toujours d'actualité, hein, quand on dit ça c'est naturel, ça c'est pas naturel, mais c'est quoi nature? Et lorsque les stoïciens disent le juste est juste par nature, il faut d'abord définir la nature. Et donc, Lycurgue n'était pas stoïcien, c'était 9e ou 8e avant notre ère, mais il avait compris que ce qui est à la base de l'éducation d'une cité, c'est donc, ce qui est à la base de l'harmonie d'une cité, c'est l'éducation. Il ne nous avait pas attendu pour savoir que l'éducation est la priorité des priorités dans une société. Et donc, parce que c'est par l'éducation qu'on va chercher à définir la notion de nature et structurer les personnes, les différents habitants de la cité, à travers cette notion. Je cite, plus tard toujours. L'éducation était à son avis l'œuvre la plus importante et la plus belle du législateur. La formation de la conscience sociale, selon une nouvelle norme, c'est moi qui commente, étant nécessaire pour atteindre le but visé. Parce que il y a des lois inscrites dans le cœur de tout homme et qui doivent supplanter les lois écrites qui n'ont qu'une valeur relative. Le principe de l'égalité entre les citoyens était donc fondamental dans cette cité. Lycurgue a procédé à des réformes destinées, je cite, « à procurer à la femme un noble sentiment de sa dignité, parce qu'elle peut avoir autant que l'homme à la valeur et à la gloire. » Je répète, « procurer », c'est du Lycurgue commenté et cité par Plutarque. Donc, la part du 7e, 8e siècle, il s'agit, je cite, « de procurer à la femme un noble sentiment de sa dignité, parce qu'elle peut avoir part autant que l'homme à la valeur et à la gloire. » Vous n'avez jamais vu ça à Athènes. Il réforme le Sénat afin de limiter les privilèges. Dans cette Sparte idéalisée, l'égalitarisme va s'assortir d'une forme de collectivisme. Lycurgue veut, je cite, bannir de Sparte l'insolence, l'envie, le luxe. Il voulait bannir les maladies sociales plus anciennes encore et plus graves que celles-là, à savoir la richesse et la pauvreté. C'est extraordinaire. Et donc, il décide de partager les biens mobiliers, il supprime la monnaie d'or et d'argent, et il fait remplacer par la monnaie de fer. C'est-à-dire, évidemment, c'est forcément beaucoup plus lourd à transporter si on a envie de voler. Donc, on dissuade les voleurs. Mais alors, le riche venait partager le même repas que le pauvre, etc. Et donc, le sang de la communauté et de l'altruisme entraîne la disparition des procès et donc des tribunaux. Alors, on met tout en commun. Alors, évidemment, ce qui pourrait nous paraître un petit peu curieux aujourd'hui. Donc, il prescrit la communauté des enfants, qui sont le bien commun de la cité, et autorise éventuellement l'échange des épouses si c'est pour avoir de beaux enfants. Alors voilà donc, très rapidement, ce qui est très intéressant, c'est de lire en entier la vie de Lycurgue de Plutarque. Écoutez, je vous le dis tout de suite, la vie de Lycurgue par Plutarque a marqué la pensée politique de Machiavel. C'est comme ça que ça s'est passé au XVIIe siècle, puis à Montesquieu et à Condorcet. Ça doit vous donner envie de lire ces textes. Voilà donc, rapidement esquissé, les traits caractéristiques de cette Sparte idéalisée, qui a fasciné les stoïciens. Bon, de toute évidence, elle a vraisemblablement été idéalisée, mais ce qui m'intéresse, c'est cette notion de mirage. Quand on agit, quand on est théoricien et praticien de quelque chose, on a une visée. Alors, le premier, c'était le mirage de l'histoire. Le deuxième, je serai un peu plus long, c'est le mirage de la raison. Le mirage de la raison, le juste est juste par nature. Mais la nature, qu'est-ce que c'est? J'ai joué sur les mots en employant, en empruntant Edgar Morin, c'est un ouvrage déjà bien ancien, son expression, un paradigme, je n'ai pas dit le paradis, un paradigme perdu. Donc la nature chez les stoïciens me paraît être tout à fait un paradigme perdu. Les stoïciens n'ont pas toujours été absolument originaux. Sur ce point, vous savez qu'ils ont suivi les leçons de leur maître de l'école cynique, Antisthène et Diogène. Mais là où il y a un écart fondamental, c'est que, je fais une parenthèse, le stoïcisme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le stoïcisme n'est pas une philosophie grecque. Donc il y a 30 ou 40 ans, je le disais, il fallait le dire en catimini, parce que ça choquait tout le monde. Donc maintenant, dans les ouvrages de philosophie, ça commence à se dire un petit peu. Ce sont des phéniciens, c'est une philosophie sémitique, le stoïcisme. Lorsque Zénon débarque au Pirée, il vient de Kytione, Zénon de Kytione. Kytione, c'est une colonie phénicienne de l'île de Chypre. C'est un phénicien, et quand il débarque au Pirée en parlant avec un accent un peu bizarre, quelqu'un lui dit « Qu'est-ce que tu veux, espèce de petit noiron frisé ?» Vous avez déjà vu des Grecs qui sont des noirons frisés ? Non. C'est un phénicien. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre l'enracinement religieux et mystique de la politique stoïcienne. Donc le premier point, ce serait très rapidement de voir comment on est passé de la théodicée à l'éthique. Parce que la morale stoïcienne, quand on dit le juste est juste par nature, on ne définit pas ça comme sans l'air. On le définit avec un fondement religieux, un fondement mystique. Quel est ce fondement mystique? C'est la physique stoïcienne que vous connaissez bien, donc je vais passer très vite. Selon la physique stoïcienne, la nature est Dieu, Dieu est nature. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de mots, je le rappelle très vite. Vous avez Dieu, Théos. Vous avez destin, Eimarmene, latin fatum. Vous avez providence, pronoia, providentia. Vous avez nature, phusis, natura. Ces quatre mots sont en homologie totale. Ils sont permutables. La nature est Dieu, Dieu est providence, la providence et destin, c'est la même chose. Par conséquent, c'est cette homologie, c'est cette circulation entre ces mots équivalents, homologiques, c'est cette circulation qui va faire définir les principes de la loi de la vie sociale. Qui va définir les principes de la vie sociale, cela veut donc dire que quand on dit le juste est juste par nature, c'est que la nature est une loi divine. Nature, loi de nature, c'est une loi divine. C'est la loi de Dieu, du destin, de la providence. Or, dans la théodicée stoïcienne, dans la théologie stoïcienne, tout homme possède en lui-même une parcelle de divin. Et c'est en fonction de cet acte de foi qu'on va définir la notion de nature. C'est-à-dire que l'autre, qu'il soit homme, qu'il soit femme, de quelque race qu'il soit, de quelque pays, l'autre a une parcelle de divin en lui, exactement comme moi. C'est-à-dire que, j'y reviendrai longuement tout à l'heure, il y a cette phrase admirable que je vous reciterai tout à l'heure parce que c'est incroyable de penser que ça a été dit en 450 avant notre ère. Il n'y a pas un autre plus semblable à moi, il n'y a pas d'autre plus semblable à moi-même que l'autre. C'est formidable. Et donc, je cite, il n'est pas possible de trouver de la justice, aucune origine ni aucun développement, sinon de la nature de Zeus et de la nature commune. C'est une citation de Plutarque, mais dont on trouvait déjà des éléments chez Cicéron. Bon, je vous cite pas tout. C'est-à-dire que la loi de justice sociale, ne pourra être établi qu'en fonction de cet acte de foi, à savoir que l'autre est identique à moi, parce qu'il contient, comme moi, une parcelle de divin, une parcelle de l'histoire, du destin, de la providence et de la nature. Cela va impliquer un certain nombre de conséquences. Première conséquence, je suis toujours dans mon premier point, de la théodicée analytique. Donc la première conséquence, c'est l'universalisme de la loi morale. L'universalisme de la loi morale, l'univers, bon, là, je cite, hein, l'univers est régi par la volonté de Dieu. Il est en quelque sorte la ville et la cité commune des hommes et des dieux. Chacun de nous est une part de cet univers. C'est-à-dire, autrement dit, chacun est citoyen de l'univers. Citoyen de l'univers, en grec, ça se dit cosmopolites. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez bien, n'est-ce pas, la théorie du cosmopolitisme stoïcien. Conséquence, si l'univers est la patrie commune des hommes et des dieux, je cite, « il n'y a qu'un droit unique par lequel la société humaine est liée. Ce droit existe par nature. » Bon, c'est une loi, mais quelle est cette loi? Cette loi, c'est celle de l'éros. C'est celle de l'éros, l'amour, si vous voulez. C'est celle de l'éros, mais c'est là qu'il y a une opposition totale avec Platon. L'éros chez Platon, vous savez, bon, je baptise, j'ai honte de dire ça, de plusieurs d'entre vous. L'éros chez Platon, vous connaissez dans le banquet. L'éros, c'est cette dynamique ascensionnelle, c'est ce facteur ascensionnel qui nous fait monter vers l'absolu. Là, il ne s'agit pas de monter, il s'agit de regarder autour de soi horizontalement. Il n'y a personne de plus identique à moi que l'autre. Et donc, c'est cette loi de l'éros, c'est cette loi de nature, puisque, je répète, chacun de nous possède une, possède une parcelle d'une même divinité qui est à l'œuvre dans l'histoire. Et il y a donc des gradations, il y a d'abord les parents et les enfants, il y a d'abord bon, tous les hommes entre eux, puis les êtres d'une société donnée, et enfin les parents et les enfants si on procède par ordre décroissant. Dès lors est affirmé le principe de l'identité absolue de soi avec l'autre, avec ce thème central de la morale, que toute faute contre autrui est en même temps une faute contre soi. Toute faute contre autrui est une faute contre soi. Et c'est ce principe d'absolu que les stoïciens vont appeler to kalon, qu'il ne faut pas traduire par le beau, le to kalon, le beau chez Platon, mais que Cicéron a traduit par honestum. Il ne faut pas traduire par l'honnête, il ne s'agit pas de ça. Je me permettrai de vous suggérer la traduction, mes certains amis savent que je le dis hein, quand on traduit du latin. Honestum, c'est la beauté morale absolue. C'est la beauté morale absolue. Vous voulez que je vous dise tout de suite quelque chose? C'est l'impératif catégorique de Kant, méditant Machiavel, ayant lu plus tard qu'ayant lu les stoïciens. Et un absolu de la loi morale. Kant n'a rien inventé. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a? À côté, il y a, bon, officium, ou ophélimon, il y a ce qu'il y a à faire, ce qui est utile. C'est l'impératif hypothétique, si tu veux que, tu peux essayer de faire, mais c'est le relatif. Je répète tout cela, c'est chez Zénon et Chrysippe. Je ne vous donne pas tous les textes parce que c'est un peu compliqué, les citations, etc. Puis je vais les piocher à toutes les époques. Mais il y a plein de choses. Et donc, conclusion de ce, l'universalisme de la loi morale, c'est qu'il s'ensuit naturellement, natura dit Cicéron, il s'ensuit naturellement que nous devons placer l'intérêt commun au-dessus du l'autre. L'intérêt commun au-dessus du l'autre. Le deuxième principe... l'universalisme de la morale, j'ai fait un gros, grand saut dans le temps. Je tombe sur Kant, mais je vous ai donné les intermédiaires. Il faut passer par Machiavel, lecteur de Plutarque. Et de Cicéron. Le deuxième principe, qu'est-ce qui fait passer de la théodicée à la morale, c'est la contestation de la civilisation, puisqu'elle exprime une particularité. Il y a la civilisation grecque, il y a la civilisation hellénistique, il y a la civilisation ci, il y a la civilisation ça. On est dans le particulier. Or, si la loi morale est universelle, s'il n'y a de droit que de droit de nature, on voit qu'il faut contester la civilisation qui est l'expression de la particularité. Et donc, ils vont critiquer un certain nombre de conventions rappelant que les lois particulières sont relatives. Et ce ne sont que des indifférences, selon la terminologie stoïcienne. Dans la terminologie stoïcienne, il y a l'absolu, le bien, et puis il y a les indifférents. Alors, dans les indifférents, il y a les indifférents préférables, par conséquent, il vaut mieux la santé que la maladie. Et puis, il y a les indifférents non préférables, c'est l'argent, le pouvoir. Et donc, ils donnent aux autonomes, il y a plein d'exemples. Et il y a plein d'exemples, et donc, ils prennent des exemples dans beaucoup, beaucoup de civilisations. Ils disent, bon, ça peut être une valeur pour tel pays ou à telle époque, mais c'est pas cela, la morale. La conclusion. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi nous avons beaucoup appris le stoïcisme comme morale au cours de nos études, au cours de nos lectures. Mais le stoïcisme moral tardif, je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de ce résumé que donne Cicéron, il n'y adhère pas. Mais le résumé qu'il donne, c'est dans les Deligimus 1.15.42. Ce serait vraiment le comble de la stupidité que de considérer comme juste ce qui a été décrété tel par les institutions et les lois des hommes. Vous imaginez le pavé que j'ai ? Ce serait le comble de la stupidité de considérer comme juste ce qui a été décrété par les institutions et les lois des hommes. Mais, voilà des choses tout à fait générales. Et à partir de ces choses générales, ils vont dégager des principes. Ils vont dégager des principes. Premier principe, la primauté de l'éducation. Pourquoi ? Parce que la civilisation crée une sorte d'une seconde nature viciée. Et donc, il faut retrouver la nature profonde en révélant à chaque homme sa vraie nature, sa première nature, qui est celle de posséder une parcelle de divin exactement comme celui ou celle qui est en face. Donc, primauté de l'éducation, par conséquent, vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai donné le nom de stoïciens qui avaient été appelés à la direction de l'État par des rois, rois de Macédoine, rois d'Alexandrie, etc., etc. Cela permet aussi de comprendre, à partir de l'Empire, Rome, la grande vogue des directeurs de conscience, à commencer par Sénèque. Et c'est facile à comprendre. À partir du moment où on donne de la nature humaine une définition qui n'est pas conventionnelle, la nécessité d'un maître va se faire d'autant plus urgente. C'est à partir de là qu'il faudrait comprendre la place de la figure d'Héraclès. Héraclès est une allégorie pour les stoïciens. C'est l'allégorie de celui qui a compris la fonction de l'éducation. Vous connaissez tous les 12 travaux d'Héraclès. Mais dans la vie d'Héraclès, il y a un détail qui a énormément frappé les stoïciens. Bon, Héraclès combat les centaures, mais il en épargne un, qui est Chiron. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de faire de Chiron un pédagogue. Parce que c'est celui qui, selon la légende et le mythe, a le plus de disposition pour comprendre l'art de la pédagogie. Et donc, rien d'étonnant à ce que les maîtres du du stoïcisme et consacré beaucoup d'ouvrages à Héraclès et à l'éducation. Deuxième principe, c'est l'égalitarisme, vous vous en doutez. Je cite, si l'on considère les liens d'association qui unissent les hommes entre eux, on voit bien qu'il n'y a pas un seul être qui soit si semblable à un seul être, si égal que nous entre nous. Je répète cette phrase extraordinaire. Il n'y a pas un seul être qui soit si semblable à un seul autre, si égal que nous entre nous. C'est une phrase d'un stoïcien, on ne sait pas qui, traduite en latin par Cicéron, et qui nous en donne une autre. Quelle que soit la définition de l'homme, c'est la même qui doit valoir pour tous. Je vous la donne en latin, parce que si vous savez le latin, vous allez être... Quae cumque est hominis definitio, una in omnes valet. Quelle que soit la définition de l'homme, il n'y a qu'une seule valable pour tous. Ce principe de base va engendrer des principes corollaires qu'il suffit de rappeler. C'est l'identité entre tous les peuples. S'il y a identité entre tous les peuples, c'est-à-dire qu'il va falloir supprimer l'esclavage. L'identité absolue entre l'homme et la femme. Il y a beaucoup de traités de l'égalité de la femme et de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'une des pierres de base de la Sparte de Lycurgue. Il y a identité entre toutes les classes sociales, parce que les classes sociales, ça vient uniquement du hasard de la naissance. Et je vais vous citer une phrase, vous allez reconnaître tout de suite. Maintenant, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni barbare, ni juif. Vous avez reconnu, c'est une phrase de Paul. Je suis désolé, ce n'est pas une phrase de chrétien. C'est une phrase de Paul, ayant été formé à la philosophie stoïcienne de l'école d'Antioche. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il n'y a plus ni homme libre, ni esclave, ni femme, ni homme, ni femme, etc. C'est la doctrine stoïcienne qui a été transmise, même au premier siècle de notre ère, à l'école d'Antioche, qui a formé Paul, et qui l'a redit, et ensuite, bon, c'est passé dans la théologie chrétienne, comme vous savez, au moins l'état de principe. De cette identité absolue de nature, le stoïcisme va faire découler cet autre principe fondamental, celui de l'égalité des droits. Et c'est en cela, bon, vous devinez la démonstration, je n'ai pas la peine, c'est en cela que je considérais que les premiers défenseurs, les premiers à avoir énoncé la théorie des droits de l'homme dans l'Antiquité, c'était les stoïciens, même si l'expression datait de la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Égalité absolue des droits. Ce qui, évidemment, constitue un pas supplémentaire par rapport à tout ce que nous venons de dire. Le troisième principe, c'est que, à partir du moment où il y a des inégalités à travers les classes sociales, etc., ben, comment faire pour remédier à ces inégalités en appliquant ce principe de nature? On va appliquer, toujours avec le mirage d'une Sparte un peu légendaire, appliquer le collectivisme. D'où des grandes discussions sur la propriété. La propriété est-elle naturelle ou antinaturelle? Les stoïciens anciens, c'est pour ça que je vous ai fait tout ce tableau, les stoïciens anciens sont purs et durs. La propriété est antinaturelle. Il y a une phrase que je vais peut-être la reciter un petit peu plus loin, mais je vous dis vite les choses parce que je ne vous dirai pas ce que j'ai préparé ici, ce serait trop long. C'est une phrase d'Athénodore de... Non, je ne l'ai pas écrite. Non, Athénodorus Calvus. Alors, nous sommes à la fin du second siècle, et il dit, alors c'est une phrase qui est citée en latin par Cicéron dans le De Officiis. Alors donc, il dit, il y a un mal qui est pire que la maladie et que la mort elle-même. Ce mal, c'est la pauvreté. Bon. Je saute, je donne juste un exemple. Dans les fresques de Pompéi, il y a souvent des représentations de scènes de théâtre. Alors on a dit, bon, c'est extraordinaire, parce que les scènes de théâtre, c'est la naissance de la perspective à Rome, etc. Bon, alors ça c'est faux, parce que comme vous savez, la perspective, elle est née en Italie à la fin du XVe siècle. Ce sont des fausses perspectives, mais qu'est-ce qui est intéressant dans ces scènes de... Il y a des scènes de théâtre. Alors dans les scènes de théâtre, au premier, je ne fais pas de dessin parce que vous allez être horrifiés de manière que vous ne comprendriez pas. Et donc il y a un petit bonhomme, souvent il y a un petit bonhomme bossu comme ça, et qui a un bâton, et puis une grosse besace dans le dos. Et puis en haut, il y a une figure un peu grimaçante. Alors, le petit bonhomme avec une besace, c'est la figure emblématique du sage stoïcien. L'emblème du stoïcisme, c'est le bâton et la besace. Pera et bakul. Et alors, ces bâtiments en perspective avec des portes, vous savez, quand il y a des portes à droite, des portes à gauche, etc., c'est pas de la perspective, c'est de la fausse perspective. C'est une scène de théâtre, avec des acteurs qui rentrent à droite, qui rentrent à gauche. Qu'est-ce que l'existence humaine? L'existence humaine, c'est la représentation d'une scène de théâtre. Nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas propriétaires des choses de ce monde. Nous ne sommes que des locataires. Et nous circulons comme des acteurs qui occupent un rôle. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir la main mise sur les choses d'ici-bas qui appartiennent à tout le monde. Nous ne sommes que des gérants comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Et donc, voilà pour résumer, la nature, avec sa loi fondamentale d'association, c'est Eros, nature c'est physis. Je vous dis nature, c'est destin, c'est providence, c'est Dieu. Hein, bon, tout combiné. C'est-à-dire, c'est providence, c'est-à-dire, bon, excusez-moi, je vous dis les choses très en désordre parce qu'il y a trop de choses à dire. C'est providence, c'est-à-dire que chacun de nous portant une parcelle de divin porte un morceau d'histoire humaine. Et donc, c'est l'ensemble des regards que les uns portent sur les autres qui va constituer cette histoire humaine, c'est-à-dire cette poussée du divin à l'œuvre dans l'histoire. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça, c'est une idée typiquement babylonienne, mésopotamienne, qui va être exprimée en langue grecque par les stoïciens, qui va être revivifiée par le judaïsme alexandrin, et par là, passer tout droit dans notre théologie chrétienne. Passer dans notre histoire de l'Occident. Dans une troisième partie, je ne voudrais pas trop long quand même, dans une troisième partie, on va essayer de voir comment le double miracle de la raison et de l'histoire vont jouer l'un par rapport à l'autre. Je vous dis, il y a le miroir de l'histoire, il y a une Sparte sûrement idéalisée. Miracle de la raison, une définition religieuse de la notion de nature avec les principes et les conseils. Comment les deux vont-ils s'articuler, c'est-à-dire comment allons-nous nous trouver au confluent de l'histoire et de la philosophie. Le premier point, c'est que l'ancien stoïcisme est né en même temps que la civilisation, dite civilisation hellénistique. La civilisation grecque n'existe plus, on est sous Alexandre le Grand. C'est-à-dire que le monde grec est tombé. La notion de cité est tombée. Donc, ce n'est pas un hasard. Il y a donc une conjonction une conjonction très très intéressante. Je refuse de croire que l'histoire et l'économie sont les seuls déterminants de la pensée. Je pense qu'il y a une interaction, ça se vérifie très profondément, il y a une interaction très profonde. Et, pour dire les choses rapidement encore, je savais qu'Alexandre le Grand, bon, on ne parle pas des conquêtes d'Alexandre le Grand, tout le monde le connaît, son grand trajet, etc. Il y a un moment quand même qui est très très intéressant. C'est que l'année même de sa mort, moi ça fait un petit peu feuilleton, mais enfin, l'année même de sa mort, il a choisi cinq nuits d'été tiède, pendant lesquelles il a voulu faire fraterniser les Macédoniens et Grecs avec les femmes perses. C'est un conquérant un peu spécial, bon, on ne peut pas comparer avec César, aucune comparaison. Plus tard que nous dit dans sa vie d'Alexandre, Alexandre le Grand a voulu faire des hommes des citoyens du monde. Je répète, hein, Alexandre a voulu faire des hommes des citoyens du monde. C'est plus tard qu'il dit ça, il emploie le même mot que tout à l'heure, cosmopolitain. C'est-à-dire que, comme vous savez, il a voulu conquérir la Perse. Alors, au début, c'était pour venger les Grecs, écraser les guerres médiques, etc., dire, faussement appelés médiques, etc. Mais apparemment, il a sans doute, moi, je ne suis pas assez historien pour pouvoir vous expliquer cela, pour pouvoir développer, mais il semble que très vite, il ait compris que le problème, ce n'était pas d'écraser les Perses. C'était d'aller au-delà de la notion de nation. Aller au-delà de la notion de nation et donc créer un univers pluriculturel, où toutes les coutumes étaient respectées. Et où même, comme vous savez, il a emprunté complètement les rites de la cour perse. Et il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Bon, l'aspect feuilleton, bon, je ne vous donne pas des noms d'hebdomadaires, vous en trouverez vous-même, ou d'émissions de télé, vous avez vu la télé. Mais avec 350 officiers, bon, on passait cinq nuits avec des jeunes femmes perses. Et puis lui, même, il en a pris plusieurs, dont la fille du roi, les filles du roi Darius III Codoman. Donc, cet épisode est connu sous les noms des noces de Suse, Suse étant la capitale impériale d'Iran. Mais je passe seulement un petit truc sentimental. La chose la plus émouvante, c'est que à la fin de la dernière soirée, il a fait représenter les Perses d'Échille devant les Perses et devant la veuve de Darius III, le chat d'Iran qu'il venait de vaincre. Il a fait représenter les Perses d'Échille en disant « plus jamais ça, plus jamais ça ». On est en plein dans l'espoir, hein ?« Plus jamais ça ». Et selon la légende, disons, tout le monde a fondu en larmes, à commencer par la femme du chat. Bon. Et donc il a voulu faire des meilleurs citoyens, des citoyens du monde, etc. Et donc, il faut essayer de comprendre cela, nous remettre dans le bain, pour comprendre qu'en même temps, vous avez eu la naissance du stoïcisme. Je ne vais pas faire un cours d'histoire de la philo, ce serait profondément ennuyeux, mais il y a une chose à laquelle je tiens profondément, c'est que je ne pense pas m'en trouver quelque part, donc c'est une idée personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, vous la connaissez. C'est que, à partir du moment où la notion de cité s'effondre, la notion de nation va se déliter au profit de quelque chose de plus vaste, qui est pluriculturel. Alors, de deux choses l'une. Où on s'enferme complètement sur soi, sur son intériorité et on s'écarte de la vie politique, c'est Épicure. Ou bien on essaie de s'ouvrir, ouvrir son cœur à la dimension de l'univers, il n'y a qu'une seule loi de nature, ce sont les stoïciens. Et vous voyez, je voudrais rectifier le préjugé que je pense que vous n'avez plus, mais qu'on nous a enseigné quand on était petit, à savoir, on était jeune, à savoir que les stoïciens, ce sont des gens un peu pessimistes, un peu raides, pas facile de durcir. Les épicuriens, c'est des gros jouisseurs. C'est exactement le contraire. L'épicurien, c'est celui qui est désespéré de l'histoire, qui va se réfugier dans les plaisirs naturels et nécessaires, c'est-à-dire la vertu et l'amitié. Il va vivre dans l'ascèse, parce que le monde lui fait peur. Le stoïcien me dit, abolis les frontières maintenant. Allons de l'avant pour un univers multiculturel. Cela va donner lieu à un syncrétisme religieux, c'est-à-dire à une superposition de cultures et de civilisations. Zeus va changer de nom, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est passionnant, mais je ne peux pas, pardonnez-moi, mais je rappelle sûrement des choses que beaucoup d'entre vous connaissent. Zeus, à Alexandrie, va prendre un nom égyptien. Il va s'appeler Sarapis. Et donc, il va y avoir superposition, superposition de fonctions divines. Et donc, un dieu va avoir plusieurs noms, exactement comme on vit dans une société pluriculturelle. Moi, j'appelle Dieu comme ça, toi, tu appelles comme ça, mais en fait, c'est un seul dieu. C'est-à-dire que nous avons ici l'émergence de l'énothéisme dans la civilisation occidentale. Le deuxième point, c'est que, donc, influence de l'histoire sur la raison, influence de l'histoire sur le mirage de la raison. Dans l'autre sens maintenant, je vais dire confluent deux. Alors, dans l'autre sens, la cité idéale va servir de mythe régulateur de l'histoire. La cité idéale va servir de mythe régulateur de l'histoire. Alors là, nous avons énormément d'éléments d'information, donc nous ne sommes pas dans le vague. Là, donc, nous allons pouvoir nous permettre des analyses plus sûres. Le réel, c'est tous les jours dans l'histoire, l'historique. Le rationnel, c'est la raison, la nature, paradigme perdu. Le réel est loin d'être toujours conforme à la raison. La raison ne s'observe pas tous les jours dans le réel. Alors j'ai classé en trois, c'est un peu arbitraire. Mais le réel de l'histoire peut paraître contenir des germes du modèle exemplaire. Tout à l'heure, vous vous rappelez la phrase de Stobé que je prenais en introduction tout à l'heure, le sage doit se mêler de la vie des États, tout particulièrement lorsque ces États manifestent un progrès vers l'État idéal. Vous vous rappelez la citation de tout à l'heure. Et donc, première situation possible, le réel de l'histoire contient des germes de cet idéal, de ce modèle exemplaire conforme à la nature, au logos, à Dieu, à la providence, à tout ce que vous voulez. Par conséquent, cela va donner naissance à une idéologie réformiste. Deuxième cas de figure. Le réel est un anti-modèle ou un modèle d'anti-valeur. Le réel, c'est exactement le contraire de ce à quoi on aspire. Naissance d'une idéologie révolutionnaire. Troisième cas de figure. Le réel ne peut ou ne doit offrir aucune prise à la raison. Il n'y a pas moyen, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, troisième type de regard, vous avez deviné, c'est l'utopie. Ces trois formes ont été parfaitement illustrées dans l'Antiquité. Je vais les passer rapidement en revue. Premièrement, l'idéologie réformiste. La Sparte de Lycurgue, comme je vous l'ai dit, a été idéalisée après coup, on ne sait même pas que Lycurgue, à quelle époque. Mais en tout cas, il y a une Sparte que l'on connaît très bien, c'est celle de la fin du IIIe siècle avant notre ère, c'est celle de AGIS 4, bon, AGIS, AGIS 4 et Cléomène 3. AGIS 4 et Cléomène 3, que nous connaissons historiquement très bien et dont vous avez la vie par Plutarque. Là encore, permet de vous encourager. Ça se lit comme un roman plus tard, les vies plus tard. Vous savez. Et donc, vous lisez la vie d'Agis et Cléomène. Encore une fois, je vous racontais des choses. La vie d'Agis et de Cléomène de plus tard, c'était le livre de chevet de Machiavel. Parce que Machiavel a voulu appliquer le système de réforme de cet idéal stoïcien à Florence. Laurent l'en a empêché. Et du coup, il s'est réfugié dans l'amertume. Quel est l'idéal du stoïcien? C'est qu'il n'y a pas, il n'y a personne de plus semblable à moi que l'autre. On essaye d'appliquer par le biais de la réforme. C'est Machiavel, lecteur de Plutarque, vie d'Agis et de Cléomène. Il le cite, hein, c'est bon qu'il a inventé. Hein. Bon, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire la réalité, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Vous savez, comme moi, que là où l'on trouve le plus d'extraits de Machiavel dans la littérature française, c'est dans l'acte 5 de la Cina de Corneille, de Horace de Corneille, et dans les Fables de La Fontaine. Des phrases entières, c'est du Machiavel. Alors donc on dit, oh c'est machiavélique, etc. Non, il faut bien comprendre, ne faisons pas de contresens sur Machiavel. Hein. Ce ne sont pas des normes, c'est la constatation amère de l'échec d'une réforme vers une société idéale, la cité de Florence qu'il a rêvée. Comme Plutarque a rêvé sur celle d'Agis et de Cléomène, mais là ça marchait, c'était une réforme qui a marché. Et alors Agis a connu très bien celui dont je vous écris de là, Sphairos. Il a eu comme maître Sphairos, il a essayé d'appliquer. Et donc, il n'y avait pas de révolution, puisque ça faisait partie un petit peu de l'histoire de Sparte, puisque de la Sparte de Lycure, il y a l'égalité, le collectivisme, etc. Donc, bon, c'est peut-être un petit peu idéalisé, mais il y avait déjà en germe. Et donc, il va mettre en commun les propriétés entre les citoyens, relever les Spartes par l'égalité, veiller jalousement à l'éducation des jeunes, et en cela, il fut grandement aidé par Sphairos qui se trouvait là. Tout ça, c'est des morceaux de plus tard que je vous lis, hein, donc j'abrège. Mais tout cela nous montre bien l'influence du mythe de la cité idéale comme régulateur de l'histoire dans une idéologie réformiste. Il y a eu d'autres exemples où l'effusion de sang a été violente, c'est l'idéologie révolutionnaire. Et là, bon, vous savez très bien de qui je veux parler. Si je vous dis, ce sont les disciples, quels sont les disciples de Blossius de Cumes, peut-être vous allez être gêné, vous allez dire, qu'est-ce que c'est, pose des questions tordues. Mais si je vous disais que ce sont les Gracques, alors là, vous avez tout compris. Les Gracques, ce sont les élèves de Blossius de Cumes. L'idéologie révolutionnaire. Ils ont voulu faire par la révolution à Rome ce que les rois de Sparte avaient fait dans la réforme. Et là, ça a été la révolution. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de textes ici, etc. Je voudrais vous citer... Ah, voilà, je vous le mets quand même. Alors, vous devinez, puisque Plutarque a écrit des vies parallèles, comme vous savez, et donc il a écrit la vie d'Agis et Cléomène, pour les Grecs, vous avez deviné tout de suite que pour les Romains, il va écrire la vie de Tiberius et Caius Gracchus. Donc vous lisez les quatre V à la queue leu leu, c'est admirable, on voit la différence entre l'idéologie réformiste et l'idéologie révolutionnaire. Écoutez, vous voulez que je vous dise tout de suite, c'est d'un côté c'est Lafayette et de l'autre côté c'est Robespierre, vous avez tout compris, hein. D'un côté Lafayette, de l'autre côté Saint-Louis Robespierre. Toute l'histoire de la Révolution française peut se faire, de la Révolution française et de la suite, elle peut se faire à travers la postérité de la pensée stoïcienne. Je dis ça vite parce que je sais que si je garde pour la fin, je ne le dirai pas. Mais le début de la Révolution, c'est l'idéologie réformiste, c'est Lafayette qui essaie de faire quelque chose. Que pas bon. Après, vous avez la Convention montagnarde, la Révolution. Et puis les choses reprennent le dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans les années 1830-1845, vous allez tomber sur le socialisme utopique avec Cabet. Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie. C'est l'Icarie de Cabet. C'est Flaubert, c'est les personnages de l'éducation sentimentale qui recommencent à fabriquer une cité idéale en mangeant la tête de veau. C'est l'éducation sentimentale. Donc, on retrouve exactement ce schéma à l'origine. Vous voyez, il y a toute une filiation, une filiation extraordinaire. Alors voilà donc ce qu'il nous dit. Voilà, c'est Plutarque dans la vie de Décrate. Caius a écrit dans son livre que Tibérius, traversant l'Étrurie pour se rendre à Numance et voyant le pays désert, sans autre cultivateur ou berger que des esclaves venus d'ailleurs ou des barbares. Il eut alors pour la première fois l'idée de l'entreprise qui devait leur causer tant de maux. C'est-à-dire, comme vous savez, le partage des terres, la répartition des richesses à Rome. Bon, ils ont été assassinés, mais c'est pas facile. Vous connaissez aussi sûrement ce discours très émouvant de Tibérius, qui nous rapporte toujours au monde. Tibérius, regardant tous ces pauvres dans la campagne romaine, il dit « Même les bêtes sauvages qui vivent en Italie ont chacune une tanière, un gîte, un refuge, tandis que ceux qui combattent et qui meurent pour l'Italie n'ont que l'air et la lumière et rien d'autre. Sans maison, sans résidence, ils errent avec leurs enfants et leurs femmes. » Ces maîtres du monde, comme on les appelle, n'ont même pas une motte de terre à eux. Idéologie révolutionnaire, imposer le partage des richesses, ils ont été assassinés, le premier en 133, le deuxième en 121. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre réforme et révolution? C'est ça, c'est remettre le droit positif, loi écrite, en accord avec le droit de nature. Remettre le réel en accord avec ce droit naturel qui est le germe de l'espoir d'une humanité et d'une société meilleure. Sous le Haut Empire, surtout particulièrement à partir de Caligula, et surtout Néron, Domitien, etc. Le néo-stoïcisme, donc nous sommes là-bas, le néo-stoïcisme va alimenter un foyer de résistance contre le pouvoir. Et donc il y a eu énormément de persécutions et d'édits impériaux contre les stoïciens. Les édits impériaux ont également condamné les premiers chrétiens par des persécutions. Il y a donc eu une sorte de collusion secrète entre les Juifs persécutés, ils ont détruit le temple de Jérusalem en 70, entre les Juifs persécutés, les secondes générations chrétiennes et les philosophes stoïciens. Il y a eu une sorte de collusion, une sorte de... Non, collusion, c'est un mauvais, c'est un vilain mot. Il y a eu une sorte de fraternité spirituelle qui a été, par conséquent, une occasion de plus, c'est pas ça qui a causé, hein, mais c'était une occasion de plus de faire circuler les pensées de l'idéologie stoïcienne à travers le judaïsme alexandrin et la naissance de la théologie chrétienne. Vous savez comme moi que nous avons gardé un certain nombre de lettres apocryphes, d'une correspondance apocryphe entre Paul et Sénèque. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est la même résistance. troisième forme, contrairement à l'attitude engagée des réformistes, des révolutionnaires, des révoltés, va se présenter maintenant un autre comportement, qui est le comportement du rêve. Le stoïcisme a eu aussi son Icarie. Quand je dis son Icarie, je pense à l'Icarie de Cabet, n'est-ce pas, qui a fait rêver Flaubert et Baudelaire. Et son Icarie, c'est la cité des sages. Je cite, « La vertu est une cité dont les habitants tous ensemble, et chacun en particulier, sont les hommes les plus heureux du monde, sages au degré suprême, bref, presque des dieux. Ils vivent dans la paix et la concorde comme une famille animée de l'esprit de l'amour. Ils mènent, comme nous l'avons dit, dans l'ordre, l'égalité et la liberté des plus excellents, dans la jouissance de tous les autres biens, la plus sereine et la plus heureuse des vies que l'on puisse se représenter. » C'est la cité idéale fabriquée en rêve. Ce Blanchus de Cumes dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été le maître des Gracques, dont nous sommes dans les années 140-130 avant notre ère, hein, a tenté lui-même de fabriquer une petite société en Asie mineure que les historiens ont cherché un peu à identifier. On connaît très bien son nom, vous le devinez, ça s'appelle la cité du soleil. Blanchus de Cumes a donc imaginé une petite cité idéale. Il s'appelait la cité du soleil, les habitants s'appelaient les Héliopolitains. Bien entendu, vous connaissez l'immense fortune de ce thème de la cité sans lieu dans la culture occidentale, depuis l'Utopia de Thomas More, 1516, la Civitas Solis, la cité du soleil, hein, de Tommaso Campanella, nous sommes en 1623, à l'Icarie de Louis Cabet, au Phalanstère de Fourier, en passant par quelque chose dont j'aurais voulu vous parler plus longuement, mais que vous connaissez donc sûrement, donc je vais passer très vite, je ne vous ferai qu'une allusion. C'est la fameuse République des Guaranis. Je pense que vous connaissez bien celle-là, je rappelle très brièvement, c'est ce que vous connaissez peut-être sous le nom des réductions. Les réductions jésuites ou l'état jésuite du Paraguay. Vous savez que le Paraguay a été découvert par, je prononce à la française, excusez-moi, il faudrait dire, je n'ai pas prononcé le portugais, pardonnez-moi, ni l'espagnol, bon, français, j'essaie déjà comme je peux. Alejo Gracia en 1524. Et à la fin du XVIe, plus précisément en 1588, les premiers jésuites débarquent au Paraguay. Et ils ont créé leur premier collège, qui était au départ désigné aux fils de nobles espagnols et portugais. Mais très vite, le supérieur général Acahuila, avec l'autorisation du roi d'Espagne Philippe III, accédait à leurs désirs. Le supérieur général, plus que supérieur des jésuites du Paraguay, a compris que, pour évangéliser les populations, il fallait créer des petites communautés chrétiennes isolées pour les protéger des chasseurs d'esclaves et de l'exploitation des colonisateurs. Et donc ils sont réfugiés dans la brousse, dans le cours moyen des fleuves Paraná et Paraguay, ou Paraná, excusez-moi. Et donc avec un projet très précis, mettre en application les préceptes évangéliques, ceux de Paul, qui sont ceux de l'école stoïcienne d'Antioche. Il n'y a plus homme, ni femme, ni esclave. Bon, donc égalité entre les hommes. Et donc, ça s'est mis en place, et facilement, semble-t-il, puisque les pères jésuites étaient d'origine et de nationalité très diverses, ils étaient très triés sur le volet par la direction romaine, en raison de cette mission très particulière. D'autre part, comme vous savez, ils dépendaient directement de Rome, et pas des gouverneurs et des évêques locaux. Alors, donc, c'est sous le père de Montoya que vers 1612 est née la première communauté constituée, la première communauté Guarani. Elle a fait tache d'huile, ce qu'on appelait par la suite les réductions jésuites ou les réductions du Paraguay, constituée peu à peu une sorte de république fédérale en pleine brousse. Cette république a pris le nom de, soit non noble, soit non par dérision, on a appelé ça l'État jésuite du Paraguay, directement rattaché au roi d'Espagne, par-dessus l'autorité des gouverneurs locaux. Dans les années 1650, on comptait une quarantaine de réductions, totalisant entre 300 et 400 000 habitants. Mais c'est par petits groupes. Et donc, il y a eu beaucoup de difficultés d'adaptation, forcément, des cultures différentes, opposition des chamans qui ont tenté de les soulever contre les pères. Et il y a juxtaposition des autorités, l'autorité des pères jésuites et celle des caciques, parce que qui alternaient. Donc c'était déjà des cités de type collectiviste sous le commandement d'un cacique. C'est pas le père jésuite qui dirigeait. Hein. Et donc, ça dure à peu près 150 ans. Bon. À leur suppression, on comptait 38 réductions, comprenant quelques 110 000 encore Guarani avec les 83 pères de la compagnie. Et là, donc, chaque réduction était dirigée par un groupe de caciques et un conseil municipal élu annuellement, donc ce n'était pas les Jésuites, ce n'était pas les Espagnols et les Portugais. Alors, c'était une pratique du collectivisme intégral qui s'accompagnait de l'obligation du travail partagé en tous, sauf bien sûr les enfants, les malades, infirmes et personnes âgées, mais y compris le père supérieur. Les biens fabriqués aux heures de loisir, eux, échappaient et relevaient de la propriété privée. Il n'y avait pas de salaire, la monnaie ne circulait pas, c'est la Sparte de Lucurgue. Et donc, les biens étaient redistribués, la monnaie ne servait que pour les échanges extérieurs et l'impôt versé au roi d'Espagne. Et donc, bon, je ne vous raconte pas, bon. Et donc, contre toute éventualité, une armée défensive était créée dans ces Guaraniens. Et donc, vous devinez tout de suite que cette république fédérale autonome contrevenait à la politique des gouverneurs, voire à la politique des évêques locaux. Et donc, il y a eu des heurts sanglants, des véritables batailles, 1631, 1636, 1639. Et cela d'autant plus de violence que les pères jésuites et les caciques combattaient côte à côte contre un pouvoir qui les soupçonnait de cacher des réserves d'or. La dernière bataille a eu lieu en 1759. Le marquis de Pombal a écrasé les armées. La République fédérale a été démantelée sur l'ordre du roi du Portugal. Et l'ordre des pères jésuites a été dissous par Rome. Les pères ont été arrêtés, déportés en 1768. Voilà, c'était la fin de cette tentative de cité idéale, qui a marqué considérablement les esprits comme Montesquieu. Montesquieu connaissait parfaitement cette expérience. On rappelle, l'esprit des lois, c'est 1748, c'est-à-dire juste 20 ans avant la fin et la suppression de cette république fédérale. Faut-il, et donc à propos d'eux, il a dit, il sera toujours beau de gouverner les hommes en les rendant heureux. Il sera toujours beau de gouverner les hommes en les rendant heureux. J'ai envie de terminer en disant, enfin c'est cet épisode des Guaranis, peut-être qu'il y a eu un retournement de l'histoire. Vous savez, périodiquement, on change la mémoire, on réévalue les choses. Les héros de cette entreprise, les héros, R-O-S et héros, H-A-U-T, de cette entreprise, c'était les pères jésuites González, Rodriguez et Castillo. Ils ont été canonisés en 1934. Quoi qu'il en soit donc, réforme, révolution, utopie. Ce sont des formes de protestation contre l'ordre établi, contre l'histoire. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun, malgré les différences? Qu'est-ce qu'il y a de commun, c'est qu'elles procèdent toutes les trois d'une même affirmation qui relève d'une foi en l'homme. C'est la foi que l'homme appartient à une société méta-historique. Et donc, ce qui fait bouger l'histoire, c'est l'espoir. Peut-on tirer des conclusions de ces analyses? Il me semble que, mais c'est tout à fait partiel, il me semble que derrière ces petites remarques que nous avons essayé de considérer ensemble, nous pouvons considérer qu'il y a une double tension. Une double tension, une première tension entre le réel et la valeur. Le réel et la valeur. Cette tension apparaît constamment en raison de cette référence au concept de nature. La nature, ce n'est pas un fait, hein. C'est une valeur. Quand on parle de nature, on interprète toujours quelque chose. La meilleure preuve, c'est que si vous mettez deux personnes pour dire définissez la loi naturelle, c'est pas dit qu'ils disent la même chose. Donc on n'est pas dans l'ordre du fait, on est dans l'ordre de la représentation de la valeur. L'expression suivre la nature, comme vous savez, comme les philosophes, les historiens de la philosophie savent très bien, change de signification non seulement selon les écoles philosophiques, mais à l'intérieur d'une même école selon les philosophes eux-mêmes. Donc on est dans l'ordre de la représentation, dans l'ordre de la valeur. Le concept de stoïcien de nature ne renvoie pas à l'homme réel, mais à une humanité définie par un dogme, instituant une solution de continuité brutale entre l'empirique et l'éthique. L'autre dimension fondamentale constitutive de ce concept, c'est la conscience de la socialité. La conscience de la socialité, Aristote avait écrit, comme vous savez, l'homme est un zoon politikon, l'homme est un animal politique. Les stoïciens, c'est beaucoup plus que cela. L'homme, ce n'est pas quelqu'un qui est destiné à vivre en société. L'homme, c'est quelqu'un qui ne se définit que par l'être pour autrui. Il ne se définit que par l'être pour autrui, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire, vous avez tout de suite deviné que dans cette conscience de la socialité, vous avez déjà des antécédents illustres, à ces pages célèbres de Hegel sur la dialectique du maître et de l'esclave. C'est déjà chez les stoïciens. On ne vit que par la reconnaissance de l'autre, parce que l'autre est un autre moi-même. La deuxième tension, où je voudrais citer une phrase de Roger Boukhéli. Il faut une loi pour faire une cité. Ni l'individu ni l'humanité ne peuvent faire leur salut eux-mêmes. Si la cité idéale est l'ordre moral, il faut aussi conclure que l'ordre moral est un tout autre ordre par rapport aux multiples ordres de choses de cette terre. La deuxième tension, c'est la tension, excusez-moi, je vais charabiatiser, mais le grec dit les choses beaucoup mieux, je vais les paraphraser tout à l'heure. C'est la tension entre l'arché, c'est-à-dire l'archéologie, le fond, hein, et le télos, c'est-à-dire la fin, la visée. Cette tension, qu'est-ce qui va maintenir cette tension? C'est la théologie de la providence. Cette tension s'articule autour de la foi stoïcienne qu'il y a un sens de l'histoire. Et quand on dit l'espoir, c'est qu'on espère qu'il y a un sens. Il n'y a pas d'espoir sans l'espoir d'un sens. Et donc, cette tension entre quelque chose qui est tout à fait derrière, dont on garde une certaine nostalgie, et quelque chose qui est à devant avec un mirage, comme je disais, le mirage étant ce qui fait qu'on continue à avancer dans le désert parce que l'on a soif. Et il y a cette tension du temps, cette tension de l'histoire, et c'est celle qui est fondamentale dans cette conception stoïcienne de nature et de cité. Cette tension entre réel et valeur, cette tension entre arché et télos, c'est-à-dire cette tension entre le vieux mythe de l'âge d'or. Pourquoi cherche-t-on cette société idéale? Parce qu'on en garde peut-être une certaine nostalgie. Et qu'est-ce qui illustre le mieux tout cela? Vous savez, bien entendu, toute la philosophie du XVIIIe défile, hein. cette nostalgie à la Rousseau. Et donc, c'est ça qui fait cette tension. Et cette double tension, et qui nous permet, de mettre en dernier ressort la cité idéale stoïcienne au nombre des grands mythes. Au nombre des grands mythes. Pourquoi ? Parce que, je rappelle toujours cette phrase admirable d'un de mes maîtres, Paul Ricoeur, les mythes, c'est le rêve éveillé d'un peuple, comme le rêve, c'est la mythologie d'un dormeur singulier. Donc ça illustre tout à fait le mythe, c'est le rêve éveillé des peuples. Et donc ce rêve éveillé, c'est cette cité idéale stoïcienne. C'est l'un de ces rêves, c'est cette idée idéale stoïcienne qui... Et si ce mythe nous paraît si attachant, à travers son histoire complexe de l'utopie, de la révolution, de la révolte, de ce mirage de la raison, à travers toutes ces complexités, ce mythe peut nous paraître encore si attachant. C'est peut-être parce qu'il ressemble à chacun de nos rêves éveillés, comme je disais tout à l'heure, par cette tension indéfiniment réitérée entre l'ordre de l'inconscient, l'ordre dit primordial, et l'ordre de l'esprit, comme dit Ricoeur, l'ordre de l'esprit du terminal. Cette tension indéfiniment douloureuse qui fait l'existence humaine déchirée entre la nostalgie d'un paradis perdu et l'aujourd'hui d'un espoir d'un paradis à retrouver. Je vous remercie.